C'est la revue de presse des Hebdo. On retrouve Arlette. Salut Arlette.
Salut Léo, bonjour à toutes et à tous.
Courrier International est le seul à couvrir le tremblement de terre en Turquie et en Syrie.
Oui, et j'ai été surprise de trouver déjà sur le bandeau ce titre « Turquie-Syrie comme la fin du monde » et en page 6 des articles recueillis dans les divers organes de presse locaux. Dans les deux quotidiens turcs, Milliyet et Türkiye, en une de leur édition du 7 février, illustrant leur première page une photo d'immeubles effondrés, comme des dominos ou des châteaux de cartes, ainsi que deux chiffres, 7,8 et 7,5. La secousse réveille Chypre, le Liban et le nord de l'Irak. Selon un géophysicien cité par le journal turc Cumhuriyet, c'est le plus grand séisme survenu sur la faille est-anatolienne depuis 400 à 500 ans. Au Washington Post, Yareb Altawil, sismologue au National Earthquake Information Center au Colorado, explique « En glissant les unes contre les autres et en s'entrechoquant, elles accumulent des frottements et des contraintes qui se libèrent sous forme de tremblements de terre. » Dans le quotidien turc anglophone Daily Sabah, sur place, le reporter turc Aki Okal écrit « Les zones touchées par un séisme sont toujours froides. Peut-être d'ailleurs le désespoir que vous ressentez quand vous voyez les maisons écrasées comme des crêpes est-il froid. La force qui peut arracher le mur d'un immeuble de 11 étages vous glace jusqu'à l'os. Un nombre inconnu de personnes reste piégé sous les décombres et les efforts pour retrouver les survivants sont entravés par la météo glaciale, écrit le journal britannique The Guardian, qui cite également comme obstacle les mauvaises connexions Internet et les routes endommagées. Tragédie est d'ailleurs le seul mot qui barre la première page du quotidien pro-gouvernemental Al-Watan, illustré par une photo en noir et blanc montrant des secouristes du Croissant Rouge syrien sur le site d'un immeuble effondré. Mohammad, dont le journal libanais L'Orient le Jour a modifié le nom, a vécu le siège d'Alep, les bombardements intenses, un enlèvement et la torture. Pourtant, la nuit du 5 au 6 février a été le pire de sa vie, estime-t-il. Ce tremblement de terre a été plus terrible que tous les bombardements qu'on a subis depuis le début de la guerre, comme l'explique le quotidien francophone. De nombreuses habitations fragilisées par plus de 11 années de guerre ou d'autres construites à la va-vite sont tombées au plus fort des secousses, mais aussi plus tard dans la journée, au rythme des répliques. Nous entendons leur voix, ils sont toujours en vie, mais il n'y a personne pour les sortir, témoignaient le 7 février des habitants de la ville de Jandaris, au site syrien proche de l'opposition Enab Baladi. Ce sont 45 pays qui ont proposé leur aide, principalement à Ankara. Les États-Unis et la Chine ont annoncé qu'ils fourniraient de l'aide en hommes et en matériel d'urgence à la Turquie. Il semble plus compliqué d'en envoyer en Syrie. Depuis plusieurs années, l'aide humanitaire à destination des zones rebelles du nord du pays est acheminée à partir de la Turquie à travers le seul point de passage de Bab el-Hawa. Et plusieurs pays ne reconnaissent plus la légitimité du régime de Bachar el-Assad qui contrôle certaines zones touchées par le séisme. Dans ce contexte, le Croissant Rouge syrien a appelé l'Union européenne à lever des sanctions contre Damas.
En France, ça défile dans les rues, c'est chaud à l'Assemblée, le canard se régale.
Les titres à la une en témoignent. La réaction de l'Élysée face au chahut de l'Assemblée, Macron, cette fois ça dépasse la borne. Hémicycle infernal, Éric Hemta se déchaîne, le chahut l'inspire, je le cite. C'est stupeur et tremblement dans tous les rangs. Ressemble à une cacophonie de trompettes bouchées, les prises de bec et de chou. Pour finir, il rappelle que, de toute façon, les discussions seront closes le 17 février à minuit, trop tôt pour savoir si Elisabeth Borne réussira à éviter de compter une nouvelle fois jusqu'à 39-3. Elisabeth Borne est la vedette de la mare au canard, ainsi que l'éventuelle stratégie que la NUPES, qui bloque les discussions la première semaine, retirerait la deuxième, 18 000 amendements d'un seul coup pour aller directement à l'article 7 qui porte l'âge légal à 64 ans. Alors j'ai cherché pour vous ce que le volatile avait découvert de bien révoltant ou ahurissant en gratouillant dans tous les coins de l'hexagone. Alors plutôt choquant, saviez-vous qu'à la fac, 130 000 vacataires assurent un tiers des cours et que depuis septembre dernier, ils devraient être payés mensuellement, ce qui n'est pas le cas. Ils sont nombreux à percevoir leur salaire 3 à 6 mois plus tard. Carrément honteux, les membres de l'association Equalist, qui en principe aident les personnes précaires et les migrants, se servaient très largement dans les subventions perçues. Petit exemple, en 2020, les revenus du boss Arthur Hanan, retenez bien son nom, culminaient à 203 000 euros bruts. Surprenant, une affaire de famille et d'héritage chez les Berry. Claude Berry, producteur, cinéaste, est mort il y a 14 ans. Ses héritiers se disputent autour de son héritage. Et surtout, ils avaient sous-évalué la valeur des biens, mais pire. Le fisc français a laissé dépasser la date butoir avant laquelle il pouvait encaisser 12 millions du redressement fiscal. C'est ballot, hein. Et pour finir, un petit scandale électoral du côté de chez Pierre Bédier, LR, élu peut-être pas de manière loyale, mais aussi visé par une enquête pour une atteinte à la probité dans une louche affaire immobilière. Ça se passe dans les Yvelines. Et pour finir, ne ratez aucun article de la chronique Zigzag. Ils sont tous plus croustillants les uns que les autres.
Le 1 prend du recul.
Ou de la hauteur. Le titre « Le pouvoir face à la rue » n'envisage pas seulement celui d'Emmanuel Macron, mais les pouvoirs devant les manifestations. Sur le poster, une historienne, Danielle Tartakovsky, grande spécialiste des mobilisations sociales, revient sur 2 siècles de manifestations en France en dégageant 3 grandes étapes et en insistant sur la place de ces mouvements dans l'imaginaire national, puis livre son regard sur la situation actuelle. Vincent Martigny, politiste, parle, lui, du choc des légitimités. Alors que le président agit de la menace d'une dissolution en cas de mise en échec de sa réforme à l'Assemblée, il devrait se rappeler que lorsque le pouvoir, face à une mobilisation massive, tente de passer en force, l'histoire peut avoir une fâcheuse tendance à se répéter. Pour le politiste, si les grands conflits sociaux sont toujours si difficiles à dénouer, c'est bien parce qu'ils opposent différents acteurs. Sous la Ve République, le président, le Parlement et la rue, qui chacun à sa manière et de façon imparfaite, détiennent une forme de légitimité populaire. Et je vous invite surtout à lire l'entretien du 1 avec Pierre Auzan-Vallon. Pour cet historien et sociologue passé par le syndicalisme avant d'occuper une chaire au Collège de France, la puissance du mouvement social en cours repose avant tout sur le désir de voir mieux prise en compte les singularités des carrières et les souffrances au travail. Il précise sa pensée. Le gouvernement tente d'imposer une loi générale alors que chacun ressent la situation qu'il vit dans ce qu'elle a de singulier. Et encore, beaucoup de personnes se sentent d'abord concernées du fait des particularités de leur situation. À la question « Quelle est la légitimité du pouvoir ?», il répond « La réforme serait légitime parce qu'elle était prévue dans le programme présidentiel ? L'élection vaudrait approbation ? Mais il y a une vraie discussion sur cette légitimité. Le propre d'une élection, c'est de nommer un vainqueur incontestable. » Au terme d'une opération arithmétique simple, l'élection, c'est l'organisation des préférences, ce qui ne signifie pas que tous les éléments du programme soient validés. Et encore, il y a donc une différence entre légitimité de statut et légitimité d'exercice. Il ajoute, en démocratie, personne n'est propriétaire de la volonté générale, de la légitimité et de la représentativité. Ces 3 éléments doivent être partagés entre différentes institutions. En ça, il rejoint largement l'argument développé par le politiste Vincent Martigny, cité plus haut.
Dans l'Express, ce sont les portraits qui ont retenu ton attention.
Dans le sommaire, j'ai repéré les portraits de 4 personnalités très différentes les unes des autres. D'abord, Jean-Marc Jancovici, l'influent gourou du climat, qui, dit-il, n'aime pas les portraits, car, voici ses mots, il focalise l'attention sur le messager au lieu de la focaliser sur le message. Ce qui le caractérise, selon l'Express, d'abord le physique. Silhouette sèche, noueuse, celle d'un montagnard écrasant les cailloux, la tignasse en bataille, stigmate d'un casque à vélo retiré à la hâte, les yeux plissés, qui lui font ce regard scrutateur, intimidant, jusqu'à ce que, parfois, un sourire, fugace le sourire, l'éclaire, fraction de seconde, ça brille, puis s'éteint. Puis, ce que l'Express a retenu de lui, longtemps seul contre tous à défendre le nucléaire, l'ingénieur est convaincu d'avoir toujours eu raison, en partie vrai. Jean-Marc Jancovici, bientôt 61 ans, n'est pas là pour rigoler, pas là pour plaire, il est là pour avoir raison. Le reste de l'enquête sur ce personnage dans le dossier, je vous le recommande. Puis le portrait d'Elisabeth Borne, une première ministre pas si impassible. Sa colère contre Buzyn, sa dispute avec Pouyanné, sa joute avec Le Pen. Quand elle oublie d'être techno, la chef du gouvernement a du répondant. Ensuite, un gros plan sur Alexeï Navalny, le premier opposant de Vladimir Poutine, en prison depuis 2 ans, subit la torture ingénieuse du Kremlin et semble condamné à une mort à petit feu. Que lui reste-t-il, si ce n'est la peau sur les os ? Ben, l'humour, pardi. C'est à se demander de quel bois Alexeï Navalny est fait. Écroué depuis 2 ans dans l'une des pires prisons de Russie, jeté au cachot au moindre prétexte, l'ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine parvient encore à en rire. Et pour finir, Pierre Assouline présente un documentaire portrait de Umberto Eco. L'auteur du Nom de la Rose, disparu en 2016, était un insatiable collectionneur bibliomane et bibliohâtre. Époustouflant le documentaire, selon Assouline, réalisé avec la famille d'Umberto Eco par Davide Ferrario, intitulé sobrement Umberto Eco, c'est à la fois le portrait de l'écrivain et celui de sa bibliothèque riche de plus de 30 000 livres contemporains et de 1 500 volumes rares et anciens qui ont été légués après sa mort à la Bibliothèque nationale de Brera et à la bibliothèque de l'Université de Bologne.
Télérama aborde des sujets très divers cette semaine.
Steven Spielberg est l'invité de la semaine. Il parle de son dernier film, The Fabelmans, le film le plus personnel du cinéaste. Il avoue, « J'ai versé toutes les larmes de mon corps en revivant mon enfance et mon adolescence lors de l'écriture du scénario. » Dans la chronique Premier plan, Cécile Murie commente la sortie de prison en Iran d'un autre cinéaste, Jafar Panahi. En étouffant d'impuissance depuis le confort de nos démocraties, il ne nous reste que le devoir de dénoncer, encore et encore, avec l'amour pour l'Iran, comme l'a écrit dans sa terrible lettre ouverte Jafar Panahi. En page 19, Xavier de Jarcy analyse dans le dossier consacré à la nature en ville la politique menée par Bordeaux dans ce domaine. Introduction d'arbres, mais aussi voiries, circulation, équipements sportifs, œuvres d'art, la métropole du Sud-Ouest vient de lancer un ambitieux plan pour apporter la nature partout en ville, en commençant par les écoles. Alors lisez donc cet article avant de râler parce que votre rue a changé de sens, que les trottoirs sont envahis par les mauvaises herbes, qui n'ont rien de mauvais, je vous le rappelle. C'est un plan ambitieux, mais pas facile à mener, surtout quand on hérite, par exemple, d'un vaste projet immobilier comme Beurre Atlantique, bureaux et logements, 738 hectares de béton, lancé en 2009 par Juppé, une époque où on se souciait peu de la crise climatique. Mais enfin, notre mère n'est pas menacée de mort, comme le sont les écolos en Amérique. C'est ce que vous apprendrez en page 35. Mi-janvier, un écologiste, Manuel Esteban Paez Terán, militant écologiste, a été tué par la police à Atlanta. Il est clair que les États-Unis sont en train de devenir un territoire dangereux pour les écologistes, affirme l'Américain Steven Donziger. En page 28, intitulée « Pas bêtes, ces animaux », nous ouvre les yeux sur ces bêtes dans les films d'animation. Une catégorie aussi vaste que l'histoire de l'animation elle-même, le genre anthropomorphique, où tout ce qui porte pelage, griffes, écailles ou plumes est, d'une manière ou d'une autre, assimilé à l'espèce dominante, la nôtre. Mais c'est une des grandes qualités de nos bestioles de cinéma contemporain. Elles prêchent la tolérance, alors des sujets très divers, mais j'y trouve quand même une certaine cohérence.
Et le moment est arrivé, Verseau, ouvrez grand vos oreilles, Rob Bresny a observé les astres et écrit votre horoscope.
Pour profiter au mieux des occasions de relations intimes qui s'annoncent, connecte-toi à tes émotions et respecte-les davantage. Pourquoi ? si vif et intelligent que soit ton esprit, il néglige parfois de consulter ton cœur. Et je veux que ton cœur soit follement disponible lorsque la possibilité de t'ouvrir et d'approfondir tes alliances se présentera. Réfléchis à ces mots du psychologue Carl Jung. Qu'on n'aille pas s'imaginer que l'on comprend le monde uniquement par l'intellect, on le comprend tout autant par le sentiment. Aussi, le jugement de l'intellect représente-t-il tout au plus la moitié de la vérité, et il doit, s'il est sincère, avouer son insuffisance.
Campus Bordeaux 88.1.